votre nouvelle vie était en Lozère.
Une émission de 48 FM depuis la tournée estivale Lozère Nouvelle Vie.
Bonjour à tous, chers auditeurs des radios associatives. Dernière étape pour la tournée Lozère Nouvelle Vie. Aujourd'hui, depuis la place de la mairie d'Aumont-Aubrac, au pied de cette bête du Gévaudan que vous pouvez aussi retrouver sur notre blog. Alors, au programme de notre journée d'aujourd'hui, nous aurons, comme à chaque fois, une séquence tourisme. Et ce sera Caroline Bidot qui nous parlera du site de Javol, une interview que nous avons enregistrée il y a quelques jours au château de la Baume. Ensuite, nous retrouverons notre ambassadeur du jour. Il s'agit de Cyril Atrazik. Cyril Atrazik, restaurateur étoilé et installé ici à Aumont-Aubrac. Et nous terminerons cette émission avec la séquence producteur et nous rencontrerons la boulangerie Solignac qui propose l'Aubracois, un gâteau aux couleurs de ce territoire. Alors, c'est aussi la dernière étape, donc il faut dire que nous avons aussi eu beaucoup de souvenirs avec ces 24 étapes pour cette tournée estivale, avec bien sûr une étape annulée hier, mais quand même 24 émissions, puisque nous l'avons tenue quand même hier. On vous a fait découvrir des acteurs touristiques, des événements, des producteurs, des ambassadeurs. Tous nous ont livré une partie un peu de leur vie, de leur parcours, de l'activité qu'ils portent et qu'ils défendent pour ce territoire. Au fil des émissions, j'espère que vous avez pu découvrir ces multiples personnes qui ont fait le choix de la Lozère pour leur projet. Ils ont fait leur nouvelle vie ici et ben, la question c'est pourquoi pas vous. C'était bien ce message de cette tournée que nous avons décliné au cours de ces émissions. Un programme positif dans l'esprit de ce que souhaite faire aussi votre radio 48FM et j'espère que vous avez passé un bon été avec cette émission. Alors je voudrais, avant de terminer et de lancer cette dernière émission, remercier tous nos invités d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'interview radio, et c'est pas forcément facile. Merci à Delphine, Pauline, Isabelle et Sophie avec qui j'ai programmé les invités de cette tournée et préparé les interviews. Merci à tous nos sites d'accueil pour les conditions techniques de transmission de nos émissions. Merci notamment à Vincent pour Lozère Wireless et à Bertrand pour les repérages. Merci à Pierrette pour avoir prévu les repas me permettant de monter et d'envoyer cette émission dans le timing prévu. Désolé évidemment pour les bugs divers de ces 24 émissions. Mais en tous les cas, merci à vous chers auditeurs de votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Et à la fin de cette émission, en conclusion, vous retrouverez le bilan de la tournée Lozère Nouvelle Vie que nous avons enregistrée avec Pauline Morin il y a quelques jours pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on en retire et les prochaines étapes de cette tournée. C'est parti, bonne émission, bonne dernière émission sur la tournée Lozère Nouvelle Vie depuis Aumont-Aubrac.
Vous propose des activités pendant vos vacances.
Écoutez bien, on va peut-être parler de ce que vous allez faire ce soir ou demain.
Première partie de notre émission pour cette étape sur Aumont-Aubrac et nous allons écouter Caroline Bidot qui parle du site de Javol puisque nous sommes ici, tout proche de cette capitale antique du Gévaudan, hein, c'est ça, Caroline ?
Voilà, c'était une ville il y a 2000 ans.
Et voilà, donc un site sur lequel il se passe plein de choses, on va le découvrir ensemble. Cette ville, à partir de quelle époque on la situe à Javol ? Ce site archéologique qui existe aujourd'hui, il date de quelle époque ?
Alors, c'est un petit vallon qui se trouve à 6 km d'Aumont-Aubrac, en direction de Serverette et Saint-Alban. Et donc, c'est un vallon qui est sans doute fréquenté à l'époque gauloise, donc au moment de l'indépendance, au moment de la guerre des Gaules. Le vallon est fréquenté par une tribu gauloise qu'on appelle les Gabales. On sait que le vallon est fréquenté parce qu'on a trouvé des objets, mais on n'a pas trouvé d'habitation de cette époque-là. Et la ville est implantée au moment de la constitution, l'organisation de la Gaule à l'époque d'Auguste, le premier empereur, donc au tournant de l'ère chrétienne. Et on va voir apparaître donc une structuration de l'espace, avec vraiment une maîtrise de ce vallon, puisqu'ils vont déplacer la rivière, la canaliser pour éviter qu'elle déborde, assainir la partie basse, et puis y installer le modèle classique romain, avec une grande place publique, des bâtiments publics et puis des quartiers d'habitation très, très bien soignés et très riches pour la proximité de la place publique. Et puis ensuite, qui vont s'étager sur les terrasses puisqu'on est dans un petit vallon, une petite cuvette.
Ça veut dire qu'on est sur une ville romaine finalement.
Alors le modèle est romain, mais les gens qui y habitent sont les Gabales. Puisqu'en fait, le principe de ces villes, et en particulier des capitales, c'est de drainer l'ensemble du territoire, donc d'y amener les riches propriétaires, à l'organisation et à l'entretien, au paiement des structures de cette ville, mais essentiellement donc autour du marché, qui va être en fait la source d'enrichissement en premier lieu pour les élites locales, qui elles vont avoir leur propriété rurale à la campagne, ce qu'on appelle les villas, et ce marché va ensuite desservir l'ensemble de l'Empire romain. Ça marche dans les deux sens, puisque par exemple à Javol, on a retrouvé du vin de Palestine, donc il y a quelqu'un de suffisamment riche pour en faire venir, mais aussi des marbres de Turquie, enfin des choses qui viennent d'assez loin. Et les produits gabales vont se retrouver via cette place publique, ce marché et les routes qui vont desservir le territoire, quasiment jusqu'en Aisne, puisqu'on a retrouvé des sigillés, donc ces poteries fines qui étaient produites dans la vallée du Tarn, à l'Agrofezenc bien sûr, mais aussi à Banassac. Jusqu'en Inde, jusque sur les contrées lointaines de l'Empire romain.
On sait combien il y avait à peu près d'habitants à Javol à cette période-là ?
Alors c'est impossible de le savoir, parce qu'il n'y a pas de recensement au sens strict du terme. On ne recensait que les citoyens, ouais, donc même pour Javol on ne l'a pas. La superficie de la ville n'est pas un indice. On peut le calibrer en fonction de la richesse des bâtiments. Mais on va trouver à peu près toujours les mêmes bâtiments. Ce qui nous indique que c'est une ville modeste, c'est donc cette fameuse place publique qui ressemble au modèle romain qu'on va trouver partout dans l'Empire romain, mais qui est en superficie le plus petit de la Gaule romaine. Il fait entre 2000 et 4000 mètres carrés, ce qui est vraiment tout, tout petit. Après, la surface de la ville, c'est grosso modo 40 hectares, ce qui la situe là aussi dans les villes moyennes. Mais il ne faut pas imaginer que tout était construit à l'intérieur de ces villes. Il y avait des espaces ouverts, des vergers, un peu comme l'adoration du côté de Mende. Et donc, ce n'est pas la densité d'habitat ou la quantité de gens qu'on peut estimer, puisqu'il y avait peut-être des étages et qu'on ne sait pas quel était le nombre, par exemple, de la cellule familiale, on n'en sait rien.
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est issu d'un travail de fouille depuis de nombreuses années déjà.
Alors les fouilles, les recherches, on va dire, ont commencé il y a une quarantaine d'années, mais on découvre à Javol depuis à peu près deux siècles. Ça s'est organisé au fur et à mesure du XXe siècle qui s'est avancé. On peut dire que les vraies recherches ont commencé dans les années 80-90, et il y a eu un véritable programme de recherche avec des unités CNRS associées à partir de 1996. On fêtera les 20 ans l'année prochaine. Et donc ce sont des gens qui sont à la fois spécialistes des objets, mais spécialistes aussi de l'environnement, de la façon dont cette ville a disparu du paysage, ou du moins s'est intégrée au paysage, qui ont travaillé là. Donc ça représente finalement beaucoup de monde et beaucoup de temps de recherche, donc beaucoup de matières premières qu'on a réussi à récolter au bout de ces 200 ans.
Alors, ce site de Javol, il y a un site qui est en train d'être aménagé et qui va continuer à l'être, on l'espère, dans les prochaines semaines pour justement découvrir un petit peu plus, rendre plus visible à quoi ressemblait cette ville, finalement. Et puis, il y a un musée, c'est ça ?
Alors voilà, toute la difficulté, c'est de permettre aux visiteurs et aussi aux Javolais, qui sont aussi visiteurs d'une certaine façon, puisqu'ils visitent le site tous les jours, de comprendre comment on a pu passer d'une ville donc, qui faisait 40 hectares à ce bourg qui semble pas isolé, mais qui n'est pas représentatif de la commune, puisqu'en fait, Javol est une très grande commune qui fait 3200 hectares à peu près. Il y a 300 et quelques habitants, mais répartis sur la totalité de la superficie. Et c'est vrai que quand on arrive dans le bourg, on n'arrive pas à saisir ni l'ampleur, ni même les vestiges, puisque petit à petit, ils ont été récupérés et puis ont servi à construire le bourg d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de rendre visible ce qu'on connaissait, nous, archéologiquement, et le rendre de façon à la fois pérenne et qui permette aussi d'assurer la conservation de ces vestiges, puisqu'il ne faut pas oublier que Javol est à 1000 mètres d'altitude, que dans ces conditions climatiques, d'humidité, sécheresse, il y a beaucoup d'alternance entre les deux, et parfois les vestiges sont très profondément enfouis, on ne pouvait pas les laisser au jour, on n'a pas les moyens techniques.
En plus, le vallon fait que c'est aussi très humide, finalement.
Voilà, on est dans une cuvette qui recueille toutes les sources qui coulent le long des pentes vers la rivière. Et donc, forcément, les vestiges... Alors, c'est très compliqué à faire comprendre parce que, paradoxalement, ce qui fait la richesse du site, c'est le fait qu'il soit enfoui. Mais en contrepartie, on ne peut pas montrer ce qui est enfoui, puisque quand on a des maisons à 4 mètres de profondeur, on ne peut pas les laisser au jour. Le sable ne permet pas d'avoir des accotements stabilisés et puis des choses qui permettent la sécurité des visiteurs et la conservation non plus. Donc le choix qui a été fait, c'est de faire un aménagement paysager. Et la chance qu'on a à Javol, c'est qu'on a 4 hectares de parcelles publiques qui se répartissent entre la région Languedoc-Roussillon, le département de la Lozère et la commune de Javol, qui a permis de constituer une réserve. Et sur cette réserve, on a beaucoup d'éléments, pas tout, on n'a pas tout fouillé, mais on a suffisamment d'éléments, et notamment d'éléments sur le quadrillage de cette ville, puisque la première marque dans le paysage qui était justement implantée pour marquer la marque de Rome, c'était ce quadrillage de rues en angle droit avec des îlots d'habitation bien définis, le forum implanté au milieu, et c'est justement sur ces parcelles publiques. Donc l'idée, c'était de matérialiser par des végétaux et du minéral, des végétaux dans la partie inondable, dans la partie basse, et du minéral pour qu'on puisse permettre l'accès à tout le monde, la partie centrale qui met en relief en fait les quelques vestiges qu'on a pu conserver au jour, c'est-à-dire un grand bâtiment public, un quartier d'habitation et puis la piscine des thermes. Et l'échelle de ces vestiges en fait permet vraiment de donner une structure, une échelle. Et comme c'est fait sur 4 hectares, qu'il y a un parcours extérieur qui permet de dominer en fait cet espace paysager, on sait toujours où on se trouve dans cette ville. Et donc le contrat est rempli, puisque la difficulté, c'était de savoir ce qui restait de cette ville et où on se trouvait quand on faisait le parcours long.
Côté de cette ville qu'on découvre à pied, donc un espace muséographique dans lequel on retrouve des éléments qui sont issus du site et qui permettent de comprendre aussi un peu plus ce site.
Voilà, donc la difficulté avant qu'on ait cet espace-là, c'était donc de montrer aussi nos recherches, à la fois les objets, puisqu'évidemment les visiteurs s'attendent à voir les objets évidemment les plus beaux qui ont été sortis du site, mais aussi de comprendre dans quel contexte ils ont été découverts. Et c'est vraiment la mission du musée qui, par l'outil archéologique, donc cette remise en contexte, expliquait par exemple que tous ces petits objets de toilette étaient trouvés bien sûr dans un contexte d'habitation, mais permettent aussi de comprendre qu'il y avait un artisanat du bronze, qu'il y avait un certain savoir-faire. Donc l'idée, c'était de mettre en relief toutes ces découvertes, à la fois dans une visée de beaux objets, bien sûr, d'un musée classique, mais aussi de comprendre quelle richesse avait ce territoire, puisque à travers la capitale, on va trouver des objets de l'ensemble du territoire, mais aussi de comprendre comment on a pu intégrer des techniques amenées par les Romains à des savoir-faire qui préexistaient, puisqu'on a dit que c'était des Gabales qui habitaient dans cette ville. Et on va voir arriver, par exemple, des carreaux de vitre aux thermes. On va voir arriver donc ces amphores à vin ou à sauce de poisson qui ne faisaient pas partie de la tradition culinaire locale. Mais voilà, de comprendre jusqu'où la romanisation s'est avancée à travers les recherches, pas seulement les objets, mais aussi les différentes recherches qui ont été menées sur le site.
Dans ce musée, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc des objets, mais aussi des panneaux, des explications, une visite guidée ?
Ben, c'est tout ça. Déjà un accueil qu'on espère chaleureux. L'idée, c'est vraiment de laisser à chacun le choix de son parcours. Certains visiteurs aiment bien être accompagnés, d'autres aiment bien découvrir tout seul. C'est vraiment de 7 mois à 107 ans. Puisque l'accès est possible pour tous, et surtout voilà, de beaucoup, beaucoup d'informations visuelles, des plans, des panneaux, des photos de fouilles, des objets bien sûr, des petits jeux. On a une borne sur laquelle on propose de faire un petit parcours découverte justement en lien avec l'extérieur pour mettre en relation les objets qui sont présentés avec les endroits où on les a découverts à l'extérieur. Il y a également une projection une projection vidéo qui permet de comprendre comment la ville est apparue et a disparu à travers les 2000 ans d'histoire de Javol sur une maquette en relief, une maquette blanche. Il y a plein de petits jeux pour les enfants, les familles et puis les curieux en général. Et vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a un espace tactile également et un audio guide pour les personnes malvoyantes. Et un espace tactile, bien sûr, auquel tout le monde a accès.
Pour visiter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut réserver ? Quels sont les horaires ? Comment ça s'organise ?
Alors, le musée est ouvert pour les vacances de printemps pour les trois zones, tout l'été de juin à septembre. Moi, je vous conseille d'aller regarder sur le site internet, puisqu'il y a quand même une modulation en fonction de l'affluence sur notre département. Donc, le site archéologique, c'est archéologie sans accent numéro 6, javol.org. Là, vous aurez vraiment tout le détail des animations, des visites et puis des rendez-vous pour les groupes, puisque c'est obligatoire. Sinon, donc, jusqu'à fin août, c'est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h45 pour les dernières entrées jusqu'à fin août, et tous les jours sauf le dimanche matin. Ensuite, en septembre, ça sera du lundi au vendredi. Et pour les journées du patrimoine, le 19 et le 20 septembre, ce me semble, c'est un samedi et un dimanche. Et après, c'est toute l'année sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires, avec possibilité d'avoir des visites bien particulières, pas seulement pour les groupes, mais voilà, sur des thématiques, qu'on soit archéologue, amateur, curieux, famille, avec vraiment une orientation particulière en fonction de ce qui est demandé.
Donc voilà, un magnifique site à découvrir pendant ce mois d'août, ou bien effectivement profiter de septembre aussi pour le faire. Donc on rappelle le site internet archéologie-javol.org. Voilà. Merci beaucoup Caroline d'être venue jusqu'à nous sur la tournée Lozère Nouvelle Vie, ici sur cette étape au château de la Baume, puisque voilà, nous avons enregistré cette séquence quelques jours avant notre étape d'au Mont-Aubrac.
Merci Guillaume, et puis merci à tous les visiteurs qui vont continuer à venir à Javol.
Ils développent leur projet en Lozère.
Partons à la rencontre de l'un des ambassadeurs Lozère Nouvelle Vie.
Deuxième séquence de notre émission depuis au Mont-Aubrac, avec un ambassadeur, c'est habituel pour cette deuxième partie. Et nous terminons cette tournée Lozère Nouvelle Vie avec Cyril Atrazik. Bonjour.
Bonjour.
Cyril, qui es-tu ?
Qui suis-je ? Donc en fait, je suis cuisinier à au Mont-Aubrac. Voilà, et j'ai cuisinier du restaurant Cyril Atrazik. Je suis issu d'une génération d'hôteliers restaurateurs et dont je suis la quatrième génération. Voilà.
Donc une maison familiale, c'était une évidence de prendre la suite,
ouais,
ou
clairement,
pas ?
Ouais, j'ai d'abord été passionné par ma maison avant d'être passionné par la cuisine, et passionné par mon département et par l'endroit d'où je viens, quoi.
Et qu'est-ce qui fait cette passion ? C'est la rencontre avec les gens, c'est de permettre justement qu'ils viennent faire du tourisme ici.
C'est... Non, mais c'est vrai que bon, de par ma profession, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir accueillir tout un tas de profils de personnes. Donc, et c'est vrai qu'à travers notre métier, on a parfois des rencontres assez insolites.
Alors, ton parcours, c'est tout en Lozère ?
Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai commencé mon école hôtelière à Saint-Gilly-d'Apcher, donc à côté, à 10 km de chez moi. J'ai la chance d'intégrer le lycée hôtelier du Sacré-Cœur, qui m'a permis d'obtenir de très, très bonnes bases pour pouvoir continuer. Ensuite, j'ai fait mon armée, puis je suis parti à Paris. J'ai fait une école de cuisine française, Ferrandi, donc l'école supérieure de cuisine française. Donc, je suis resté 3 ans à Paris et 1 année à Londres, voilà. Et je suis revenu assez rapidement finalement.
Et donc aujourd'hui à la tête donc d'un restaurant étoilé, d'une brasserie aussi qui décline un petit peu les ce produit. Comment cette maison d'aujourd'hui depuis que tu en as le pilotage, qu'est-ce que tu as voulu en faire aussi tu as voulu faire évoluer cette
Non mais moi en fait j'ai simplement voulu exister exister quoi, tout simplement. Donc il a fallu pour exister proposer des produits différents et des produits qui fonctionnent. Donc non, ma seule motivation c'était de pouvoir revenir dans mon département et de pouvoir m'épanouir et de pouvoir faire en sorte que ma maison puisse traverser son époque, voilà.
Alors forcément, quand on parle de cuisine, quand on parle de gastronomie, forcément en Lozère il y a une diversité de produits de base. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes produits phares, qu'est-ce que tu as envie de cuisiner ici?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir ce qui est important aujourd'hui quand on a un restaurant, ou c'est l'image qu'il en dégage. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être sur un territoire qui permet d'avoir qui permet de s'exprimer, qui permet d'avoir à travers ses produits d'avoir une véritable identité culinaire, soit à travers les viandes, à travers les champignons, soit à travers les herbes, à travers les poissons d'eau douce bien sûr j'entends. Mmh. Ça permet de proposer une cuisine qui a une véritable identité. Et ça, c'est vraiment la chance, la chance que j'ai et que j'ai essayé justement de prendre en m'installant sur, en m'installant sur ce département.
Alors la recette, ce qu'il faut ne pas louper quand on vient manger.
Non, bien évidemment. Bon, mais moi on a un plat qui s'appelle les nouilles de céleri, qui est un petit peu un plat un peu emblématique de notre maison, qui est un plat à base de céleri, mais surtout à base de champignons. Hein. Donc à travers les saisons, on commence par la morille, on continue par les mousserons des prés, par les girolles, les cèpes, etc. Et on traverse un petit peu toute l'année la saisonnalité de cette recette. Et puis bien sûr toutes les viandes de pays, puisque mon beau-père est boucher aussi, donc accessoirement sur le village d'Aumont. Mmh. Et donc on a des viandes exceptionnelles, bien sûr.
Voilà, des viandes, de la charcuterie aussi.
Et charcuterie, bien sûr. Il n'y a pas de, voilà. Et donc, on a la chance d'être à une altitude de 1000 mètres où la charcuterie sèche assez naturellement. Donc, on n'a pas besoin de la fumer, de la, entre parenthèses, de la trafiquer pour qu'elle ait une belle tenue.
Récemment, il y a eu des investissements aussi sur le restaurant, hein, ouais. pour coller un petit peu plus aux envies actuelles.
Ouais, clairement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être compétitif. Aujourd'hui, on est sur un secteur, malgré notre faible densité de population, on est sur un secteur qui est avec une grosse concurrence. Des étoiles et Michelin autour de chez nous, il y en a beaucoup. Donc il faut être performant, il faut donner envie, il faut et donc et ça passe forcément par l'investissement et puis par de l'attractivité au niveau de notre petit travail.
Alors aujourd'hui, est-ce que tu te considères heureux dans ce métier en Lozère, dans cette activité?
Mais clairement, je crois que moi je suis très très heureux. Je ne déménagerai pas de l'endroit où je me trouve pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai qu'effectivement, d'abord, c'est ma maison, mais en plus c'est vrai que on a une situation géographique qui est privilégiée. En bordure de la 75, c'est vrai qu'on est, on a cette chance aussi d'avoir des produits à portée de main qui nous permettent d'avoir une véritable identité culinaire, comme je le répète. Et ça, j'y suis profondément attaché parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est justement en ayant une identité qu'on arrive justement à avoir de l'attractivité au niveau de notre commerce, quoi.
Oui, d'ailleurs, même on peut se dire, bon, voilà, il y a de l'aligot sur la table d'un restaurant étoilé, c'est pas forcément évident comme recette traditionnelle.
J'aime pas trop le mot restaurant gastronomique parce que la gastronomie c'est l'aligot, la gastronomie c'est la charcuterie, la gastronomie c'est la choucroute en Alsace, c'est le cassoulet en région toulousaine. Voilà, c'est ça la gastronomie. Il n'y a pas de grande gastronomie, il n'y a pas de petite gastronomie. Il y a on mange bien et on mange bon ou on mange mauvais. J'aime pas trop ce thème gastronomie. Donc l'idée c'est de proposer même à des gens qui viennent manger au restaurant de pouvoir avoir un petit bol d'aligot tout simplement, voilà, parce que c'est le pays de l'aligot.
Alors, tu as été retenu parmi un certain nombre d'ambassadeurs Lozère Nouvelle Vie. Qu'est-ce que pour toi d'être ambassadeur de la Lozère, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu?
Ben d'abord, j'ai été très très touché, et très heureux de faire partie de ce premier G d'ambassadeur. Pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on est un tout petit département. 72, 73, 74 000.
Ouais, presque 78.
78 000 habitants qui couvrent la Lozère. Donc il faut que toutes les forces vives se solidarisent et puis permettent de continuer à faire avancer le département, quoi. En tout cas en termes d'image.
Alors, quel conseil tu donnerais, parce que là, c'était l'objectif de cette tournée, c'était de montrer qu'on peut faire son projet en Lozère, qu'on peut s'installer. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait justement avoir un projet, s'installer en Lozère?
Non, mais un conseil, je crois que c'est un conseil de vie tout court, c'est qu'aujourd'hui... chaque pays, chaque territoire a ses avantages et ses inconvénients. Et dans tous les cas, en Lozère, on n'a pas plus d'inconvénients qu'ailleurs. Et beaucoup d'avantages qu'il faut tirer le meilleur de chaque pays et que notre département possède énormément de richesses et désenclavé aussi parce qu'aujourd'hui on a des axes quand même qui nous permettent d'être loin très très vite et ça c'est vraiment important.
Alors, on en arrive au fameux portrait chinois, oui. Le fameux auquel tous les ambassadeurs sont passés pendant l'été. Alors, on va commencer avec l'animal, animal favori, animal qui te ressemble.
Animal. Moi, j'ai un petit chien, je l'adore et j'aime bien le chien, voilà.
Ok. Une chanson, un chanteur.
Non, je suis plutôt amateur de chansons françaises. Et c'est vrai que d'ailleurs on a une playlist un petit peu particulière au niveau du restaurant où on répertorie un certain nombre de chansons françaises. Donc plutôt pas de chanteur de préférence, mais plutôt variété française.
Oui, donc on écoute de la musique
cuisine. En cuisine, mais en salle aussi.
Et en salle aussi.
On a un restaurant qui est équipé avec de 36 enceintes. Donc chaque table est équipée en stéréo avec la possibilité d'augmenter, de niveler le son sur chaque table.
Et oui, un peu de modernité. Hein, oui.
C'est aussi ça la Lozère.
Un lieu préféré en Lozère.
Ah, c'est vrai que je suis un petit peu chauvin, mais c'est vrai que les plateaux de l'Aubrac, c'est quand même des endroits qui dépaysent et qui font rêver.
Une drogue favorite?
Peut-être le travail.
Ah oui.
Je sais pas. Ouais.
Bon, alors on verra avec la question loisir s'il y en a tout à l'heure. Un plat préféré?
Ah ouais, incontestablement la charcuterie.
D'accord.
À la saucisse fraîche, la saucisse sèche de mon beau-père. J'ai du mal. Il faut. Pourtant, je me soigne, mais j'ai du mal. Hein.
Voilà, c'est pas mal. Ça pourrait être aussi une drogue. Hein.
Ça pourrait être aussi une drogue, c'est vrai.
Alors, des loisirs. Est-ce qu'on a des loisirs?
Ah oui, des loisirs. Oui. Donc, des loisirs. Loisirs. Le golf, déjà.
Ouais.
Je joue un petit peu au golf et puis à la Canourgue en l'occurrence, bien sûr, on reste sur le territoire. Et puis des loisirs, puis loisirs un peu gastronomiques aussi. C'est vrai qu'on quand on bouge, on aime bien bouger,
restaurant, voir un peu les collègues,
voilà, exactement, ouais.
Voir ce qu'ils font et leur piquer des idées.
Voilà, et on n'hésite pas à traverser les frontières.
D'accord. Un verbe ou un mot?
Un verbe, un mot. Vie, quoi, voilà, vie avec un grand V.
Comme la nouvelle vie en Lozère.
Comme la nouvelle vie.
Une qualité, un défaut?
Ouais, je suis mal placé pour le dire, mais bon, qualité, je sais pas, peut-être insouciance, peut-être inconscience, ouais, je sais pas.
Ouais, ça peut être un peu des deux.
Ouais. Le meilleur souvent côtoie le pire.
On termine avec un rêve.
Mon rêve, ce serait d'essayer avec ma maison d'aller le plus loin possible et de rien regretter. Voilà.
Ben voilà, un projet qui se continue. Donc,
oui, voilà.
On va citer évidemment le site internet du restaurant, de l'hôtel, la brasserie.
Voilà, chez Camillou, @, on trouve assez facilement sur internet. Voilà. T'as pas Camillou, normalement ça sort.
Chez Camillou, Cyril Atrasic.
Voilà.
Et on retrouve tout
très
ça.
Bien.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Merci
sur la tournée
Lozère
Nouvelle Vie. Et voilà, c'était très sympathique de terminer avec Cyril, peut-être un de nos ambassadeurs les plus connus finalement aussi sur de ces 24. Merci en tous les cas.
Merci à toi, Guillaume.
Ils nous procurent des plaisirs authentiques avec leurs produits ou leurs créations.
C'est le moment de saliver avec un producteur.
troisième partie de notre émission à Aumont-Aubrac et je me retrouve juste au-dessus de la boulangerie de Stéphane et Laetitia Solignac pour parler de l'aubracois, une spécialité lozérienne. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors l'aubracois, donc c'est un gâteau sec qui est c'est un mélange donc de raisins, noisettes, amandes et de miel. C'est un produit qui se garde jusqu'à 6 mois. Donc voilà. Donc c'est notre produit phare.
Ça se mange comment ? Enfin, c'est plutôt un dessert. C'est plutôt, enfin, ça se mange avec une glace, avec quoi ?
Donc c'est un gâteau sec, donc plutôt avec le café. Voilà, même avec une glace, pourquoi pas ? Voilà. Au fil du temps, de toute façon, il va sécher et ça va finir un peu comme un croquant aux amandes.
Comment vous avez eu l'idée de ce gâteau ?
Alors, on a eu la chance de pouvoir avoir cette recette par Monsieur Tardieu, donc on a repris. Donc, on a repris cette recette en 2012 et donc depuis, on essaie de la développer.
Et donc, vous avez réussi à obtenir le prix de Lozère Gourmande.
Voilà, ça fait donc 2 fois qu'on a pu avoir la chance d'avoir le prix de Lozère Gourmande. Et ben, on va continuer de toute façon et on cherche justement à le développer. Donc, on le dépose d'ailleurs à l'Office de Tourisme d'Aumont et il est également présent à Simply Market.
Voilà. Donc sur une diffusion plutôt locale, pas au-delà des frontières d'Aumont-Aubrac.
Donc notre projet, ça serait de le développer justement un peu plus loin, sauf qu'il faut suivre derrière également. Donc déjà mon but à l'heure d'aujourd'hui, c'est de satisfaire au mieux donc les personnes qui me le prennent régulièrement, donc en boutique, donc Simply, l'Office de Tourisme. Et voilà, après il faut qu'on se développe, mais c'est le but.
Alors, les clients qui achètent ce produit, c'est vos clients réguliers ici d'Aumont-Aubrac ou c'est aussi les gens qui sont sur le chemin de Saint-Jacques qui profite le plus de ce produit ?
Alors, donc il y a mes habitués, donc nos clients. Il y a également donc toutes les personnes sur le chemin de Saint-Jacques également, les touristes. J'ai des personnes également qui viennent, et ben ils ont le truc de la Lozère Gourmande, donc ils viennent, ils veulent le produit, donc voilà. Donc ça satisfait plein de monde.
Ouais, voilà, donc un produit à découvrir. Est-ce que ça coûte cher cet aubracois ?
Donc c'est un gâteau qu'on vend 6 euros, donc pour un poids de 500 grammes.
Voilà, on peut en profiter pendant un bon moment, hein, parce que c'est quand même assez important comme gâteau.
Oui, ça peut se garder jusqu'à 6 mois et c'est quand même assez consistant, donc voilà.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce produit, donc voilà, qu'on retrouve ici, donc à la boulangerie Solignac, route d'Aubrac, hein, c'est en partant vers Nesbinal, hein, à Aumont-Aubrac. Vous êtes ouvert tout le temps ? Non, il y a peut-être un ou deux jours de fermeture quand même.
Donc après notre jour de fermeture, c'est le mercredi, mais sinon on l'a toujours en stock, on essaie toujours de l'avoir, et donc du lundi au dimanche, voilà.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce produit et puis donc voilà, de cette boulangerie que vous pouvez retrouver ici à Aumont-Aubrac. Et voilà, nous sommes donc au terme de cette tournée. C'est donc l'heure du bilan avec Pauline Morin, la grande organisatrice de ces 24 dates. Alors, finalement, est-ce que vous êtes satisfaite de cette organisation, de ces 24 dates et de ce qui a été proposé dans ce cadre-là ?
Oui, alors très satisfaite effectivement de la tournée pour plusieurs choses. Tout d'abord, le public que l'on a rencontré qui correspond tout à fait à notre cible, des touristes qui sont déjà sensibilisés par la Lozère, qui viennent et qui reviennent en vacances et qui parfois se posent même la question de pourquoi pas une installation. qui n'ont pas forcément les clés de comment faire pour s'installer. Et donc, nous avons justement cette offre d'accompagnement à leur proposer.
Donc, tu disais des personnes plus, finalement, qui ont déjà une connaissance de la Lozère. Est-ce que c'est plus facile pour envisager plus, envisager la concrétisation d'une installation?
C'est beaucoup plus simple parce qu'effectivement, elles connaissent déjà le territoire. Certaines ont des notions également de l'activité, du tissu économique. Donc, on est là pour leur présenter des offres concrètes. On n'est pas obligé de commencer par une localisation de la Lozère sur le territoire français. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus simple, effectivement.
Alors, combien de personnes rencontrées pendant cette tournée?
On a essayé chaque jour de comptabiliser le nombre de personnes qui visitaient notre mini-village. Au final, on arrive à près de 4000 visiteurs sur l'ensemble de la tournée, ce qui correspond pour une comparaison avec des chiffres lorsqu'on fait des salons sur Paris notamment.
Et donc avec cette différence de public qui est plus finalement plus déjà avec un niveau un petit peu plus sensibilisé à la Lozère. Et au final, bah, sur ces 4000, combien s'installent demain?
Je ne pourrais pas donner de chiffres exacts, mais je pense que dans les mois à venir, on aura déjà des retours sur le territoire parce qu'on a des gens qui ont pris des offres, qui ont rempli notre formulaire de contact sur le site Lozère Nouvelle Vie. Il y en a qui attendront la fin des vacances pour le faire, mais vraiment des touches cette année très positives.
Et donc, ces premiers contacts, qu'est-ce qui s'est passé finalement sous ce stand? Quels ont été les échanges, un peu la teneur de ces échanges?
Les gens, certains d'entre eux étaient informés de la tournée estivale, donc déjà nous cherchaient à nous rencontrer pour qu'on leur explique un petit peu quel type d'accompagnement on pouvait leur proposer, quel type d'offre on pouvait leur proposer sur une installation en Lozère. Donc des gens très captifs, certains avec des projets déjà un petit peu aboutis.
Au final, donc aussi 24 ambassadeurs, 22 sont venus. Ce témoignage finalement de leur parcours, de leurs conseils était un élément important dans le cadre de cette tournée.
Les ambassadeurs ont été pour nous un facilitateur un petit peu d'échange avec les contacts que l'on a eus, les visiteurs que l'on a eus, parce qu'effectivement, ces personnes-là sont des vraies personnes. Ce n'est pas qu'une publicité lambda, ils ont des vraies expériences, des vrais parcours de vie sur le territoire lozérien, et ça parle immédiatement à des gens qui se projettent finalement dans ces portraits-là.
Sur ce village de Lozère Nouvelle Vie, il y avait aussi des animations. Est-ce qu'elles ont trouvé leur public?
Alors on était face à des touristes qui, bien que certains revenaient en Lozère, avaient déjà une connaissance des productions locales notamment. On est face à un public qui s'intéresse évidemment aux produits locaux, à l'artisanat, au festival qu'il y a également, à toute l'offre culturelle que le territoire peut leur proposer pendant leurs vacances, et ce qui nous permet aussi de parler de l'offre culturelle ou des produits qui existent toute l'année sur le territoire.
Alors le partenariat avec 48FM, c'est pour nous 48FM un bilan positif, hein, 24 émissions produites depuis la tournée Lozère Nouvelle Vie. Pour l'organisation Lozère Nouvelle Vie, qu'est-ce que vous en retirez?
On en retire un plateau très agréable, surtout le fait de pouvoir faire intervenir différents ambassadeurs, différents producteurs, différents prestataires touristiques. Cela a permis d'avoir une réelle animation sur le stand le matin et des échanges avec les visiteurs donc qui rencontraient ces personnes. Une réelle plus-value pour moi, ce partenariat avec 48FM.
Merci Pauline Morin pour ces félicitations aussi, d'une certaine façon. Et en tous les cas, c'était un partenariat bien agréable, mis en place durant tout l'été. On va rappeler que on peut continuer à suivre, on peut réécouter une partie de ces émissions, on peut retrouver aussi les photos des différentes étapes, des différentes personnes, des sujets qu'on a évoqués sur le blog de cette tournée, hein, tournée-lozère-nouvelle-vie.tumblr.com. voilà un support qu'on peut vraiment être, qu'on peut consulter encore, hein, qui va rester en ligne évidemment. Est-ce qu'on a d'autres rendez-vous pour Lozère Nouvelle Vie dans les prochaines semaines?
Alors effectivement, on va organiser une étape hors circuit sur le territoire pour les 160 km de Florac. Il est important pour nous de participer à cet événement-là. Et puis, on va ensuite réfléchir à l'organisation de la tournée pour l'an prochain.
Alors, ben voilà, on en parlera. Et puis, dans quelques semaines aussi, Sarah de Dolan, ça sera nos amis de Lozère Développement qui seront aux manettes avec le pays du Gévaudan pour une nouvelle édition de la Start-up est dans le pré, Lozère Nouvelle Vie.
La Start-up est dans le pré, effectivement. Deuxième édition en Lozère aura lieu à Saint-Rome-de-Dolan et il y aura un mini-village Lozère Nouvelle Vie parce que ce public de participants à la Start-up correspond tout à fait à notre cible de jeunes actifs, hein, qu'on souhaite faire venir sur notre territoire.
Merci Pauline Morin, merci à Lozère Nouvelle Vie de nous avoir accueillis sur cette tournée en tant que 48 FM. Voilà, et puis bah, on va peut-être profiter aussi de cette dernière séquence dans cette émission pour remercier toutes les équipes du département, voilà, tous ces partenaires qui se sont donc associés à cette tournée Lozère Nouvelle Vie. Un immense merci aussi à tous les sites, toutes les municipalités qui nous ont accueillis tout au long de la tournée. Merci aux producteurs qui nous ont apporté leurs produits pour les déguster. Un merci également aux partenaires touristiques, aux événements qui sont aussi venus témoigner de leurs actions. Voilà, il y a forcément des très beaux souvenirs dans nos têtes. Voilà, je sais pas, peut-être un petit souvenir, Pauline Morin, le petit souvenir de cette tournée.
Non, j'ai pas de souvenir en particulier, mais chaque jour a été riche de parties de rigolade, au montage, démontage avec les équipes présentes et des échanges aussi très riches avec les ambassadeurs, les producteurs. Ça a été un été vraiment, vraiment riche en partage et en émotions.
Merci Pauline Morin. Et bonne fin d'été.
L'émission que vous venez d'entendre a été présentée par Guillaume Delorme depuis la tournée estivale Lozère Nouvelle Vie.
Une émission de 48 FM en partenariat avec le département de la Lozère.